Ce blog veut être un lieu d'archivage de mes expériences au cas où, dans le futur, elles puissent être utiles à quelqu'un. C'est pourquoi je vais présenter ici un premier document qui concerne les 30 années d'expérience avec le mandala, parce que j'ai trouvé beaucoup de confirmations de ce que je pressentais au sujet de l'éducation, de l'école et de la pratique pédagogique. Il me paraît utile d'en témoigner, tellement elle a été porteuse pour beaucoup, d'élargissement de la conscience de soi. J'ai eu à cette époque à m'adresser à de très nombreuses personnes qui étaient venues auprès de moi s'initier à la pratique graphique du mandala. Pour quitter les références à la tradition, nous avons préféré le nommer dessin centré ou peinture centrée. Et ces personnes, comme moi, ont été les témoins actifs d'une réflexion sur les avancées possibles de la conscience de soi grâce à l'authenticité relationnelle. C'était comme si, en entrant dans l'expression, dans cette forme centrée, habitée d'un point central et d'une périphérie très délimitée, on entrait en même temps dans sa propre vie sans faux semblant. C'est-à-dire que les expressions, les échanges entre les personnes, pour chacun vis-à-vis de soi-même, étaient d'une clarté et d'une authenticité remarquables. Autrement dit, et pour résumer, il s'agissait, en définitive, d'une réflexion sur la relation dans l'éducation. Et mon terrain d'observation était comment l'adulte d'aujourd'hui a-t-il été sculpté par sa vie d'enfant? Lorsque j'étais institutrice de jeunes enfants, il s'agissait avant tout pour moi de leur permettre le bien-être, le dynamisme, l'ouverture. Il me fallait donc comprendre quels réels mécanismes les animaient et comprendre pourquoi ils étaient la plupart du temps dans un très grand stress. L'expérience avec le mandala proposé aux enfants, en peinture, en dessin, en collage, a été absolument spectaculaire. Et c'est ce dont je veux témoigner ici. C'était comme si, entrant dans cette forme, l'enfant entrait en contact authentique avec lui-même et ne pouvait plus rien cacher de sa vraie nature profonde. Dans le mandala, on ne peut rien cacher. L'expression émerge spontanément et elle nous parle de notre réel intérieur. Je précise que dans cette recherche, je n'ai pas voulu faire référence aux théories cognitives ou autres, car je voulais rester dans le domaine pratique pour ne m'appuyer que sur mes observations de terrain et les rendre accessibles à tous, enfants comme adultes, et je pensais particulièrement aux parents d'élèves et à mes collègues. La proposition était vraiment d'observer le réel et d'en tirer des conclusions et d'aller en chercher des vérifications. C'est pourquoi je précise aussi combien la stratégie qui m'a animée d'un bout à l'autre, c'est d'observer d'abord et de comprendre ensuite, et seulement ensuite. J'ai vu immédiatement comment cette pratique d'apparence simple et ludique, peindre dans un cercle, provoquait un véritable saisissement de l'être. Quelle stupéfaction de voir que les enfants les plus agités s'immobilisaient brusquement, entraient dans une sorte de concentration intérieure et en oubliaient les récréations. Et dès que j'ai proposé cette activité à des adultes, j'ai vu qu'elle engendrait un changement de comportement spectaculaire, provoquait des prises de conscience immédiates, des manifestations somatiques, et faisait souvent remonter en masse des souvenirs des conflits d'enfance. J'ai vu aussi qu'en me bornant à accompagner silencieusement les personnes et en recueillant leurs témoignages, je voyais qu'un rééquilibrage spontané de leur état se produisait et qu'il s'agissait en quelque sorte d'une cure de rééquilibrage intérieur. C'est alors qu'en forme de vérification, j'ai rencontré les sciences de l'éducation et la vision du biologiste Henri Laborite dans son livre « La nouvelle grille » en vogue à l'époque. Il décrivait les différents niveaux comportementaux du cerveau humain. Cette vision des choses m'a été aussi retransmise par Hélène Trocmé-Fabre, professeure à l'Université de La Rochelle, qui était spécialiste de la neuropédagogie, ou comment adapter l'éducation à ce que l'on sait de l'activité cérébrale. Tout cela m'a donné des clés générales de compréhension. En prise directe avec les familles, j'ai compris l'importance de pouvoir comprendre et décrire le plus simplement possible les mécanismes qui nous habitent et agissent intérieurement. Cela m'apparaissait, et m'apparaît toujours, une clé essentielle pour promouvoir l'éducation naturelle telle que je la concevais, c'est-à-dire raisonnée et efficace. J'ai alors tenté d'exprimer ces notions sous la forme de schémas et d'images simplifiées qui me permettaient, et qui permettaient à tout le monde, y compris aux enfants, de comprendre de quoi nous sommes faits en réalité. C'était une sorte d'écho pratique à la nouvelle grille d'Henri Laborie. Je voyais bien que la connaissance de ces mécanismes était essentielle dans les relations, puisqu'elle permet d'entrer en résonance avec autrui, sans rien condamner, mais en comprenant ce qui se joue réellement dans le monde quotidien comme dans l'éducation. C'est pourquoi je vais présenter ci-dessous une suite d'images auxquelles j'ajoute des explications qui permettront peut-être de pénétrer plus avant dans cette expérience. Et je précise que je suis l'auteur de tous ces schémas qui sont déposés et ont tous un copyright. Ce partage n'a pas pour but d'apporter des notions péremptoires, mais c'est une invitation, pour ceux qui le désireront, à reconnaître à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui y est décrit. Tout le travail accompli pendant ces années est axé sur l'intériorité et l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est ce que je vais tenter d'expliquer dans la suite de ce document.